Voilà. J'étais censé faire le lien entre la science pure et la musique pure, mais ils l'ont fait tout seul. J'ai plus rien à dire. C'est vachement bien. C'est économique pour moi. Voilà. Non, sinon que... moi, je suis compositeur donc de musique électroacoustique où les sons sont fixés sur un support, autrefois la bande magnétique, et on passait énormément de temps à faire des petits montages, le son à l'envers, à l'endroit, en boucle. On fait la même chose d'une manière informatique, on va plus vite, mais on travaille dans le temps, sur la durée. Je reprends actuellement mes pièces qui ont une bonne vingtaine d'années. Je les remanipule parce qu'elles ont encore besoin d'être bougées, retravaillées. Et tout de suite, eh ben, à l'inverse, et c'est ça qui est étonnant, si on parlait de structure tout à l'heure, elles sont extrêmement élaborées dans mon cas, et le cas de la musique électroacoustique sur support, la musique des sons fixés. Eh ben, on se trouve avec la musique faite en direct, dans la même problématique de la gestion du temps. Hein. Appréhender l'objet dans son entier, y glisser des événements pour renouveler l'écoute. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il s'agit de prendre par le veston, le col du veston, l'auditeur, et le tenir, il ne faut surtout pas le lâcher, jusqu'à la fin de la création, de la petite pièce ou grande pièce. Voilà. Et donc, Youri Kourtag, ce soir, va nous faire les choses en direct devant nous, avec une machine. Il va nous expliquer ça. Quel genre de machine.
Je vais raconter un peu mon histoire d'abord. Et après, je montre quelques exemples de différents groupes. Donc j'ai essayé de lier effectivement avec les conférences avant, donc autour des problèmes de segmentation, des possibilités et impossibilités de segmentation. Alors juste avant, je me présente par les compositeurs qui m'ont influencé beaucoup. Donc le premier c'est George Ligeti, sa pièce de 100 métronomes, qui était pour moi l'idée que la composition musicale, ça peut être un processus tout court. C'est-à-dire qu'on lance un processus, on laisse dérouler jusqu'au bout. Donc l'idée de cette pièce, il y a 100 métronomes, chacun est là, une vitesse différente, et ça crée un catharsis incroyable quand les quelques derniers qui restent. Alors le suivant, ça c'est Peter Utrecht, qui est un compositeur, chef d'orchestre. Et dans les années 70, il était assistant musical, donc aujourd'hui qu'on appelle RIM, donc réalisateur informatique musical, mais en analogique. Et il était au studio de Stockhausen, avec Stockhausen, cette époque-là, où Stockhausen a commencé à s'intéresser à l'improvisation. Et donc, en 1970, à Osaka, et pendant 6 mois, ils ont joué 1300 fois la même pièce, improvisée, dans un dôme qui est un peu plus sophistiqué que le nôtre, parce qu'il y a 6 étages et 6 colonnes des autres parleurs. Et bon, il y avait un peu plus de public parce que je pense qu'il y avait 500 000 personnes qui ont passé. Alors, le prochain, c'était dans les fin années 77 où un groupe de compositeurs, on a invité Steve Reich à Budapest. Et donc, j'ai joué avec lui à Clapping Music. Et donc c'est là où j'ai découvert qu'on peut écrire autrement la musique que Ligeti Stockhausen. Donc on peut faire quelque chose qui est beaucoup plus lié avec la musique que j'ai écoutée. Et à cette époque-là, c'était Pink Floyd, Jimi Hendrix, Beatles, Supertramp, Police, etc. Donc, ça vraiment, c'était la libération de rencontrer avec Steve Reich et la musique américaine, qu'on connaissait très bien, et l'improvisation. Suivant, c'est Luc Ferrari. Donc, dans les années 80, j'ai été membre de la mise en circuit, qui était piloté par Luc Ferrari, qui était, après 6 ans, passé à l'IRCAM. C'était encore une fois un libérateur pour les pensées musicales, que tout peut être musique. C'est simplement, il n'y a pas de différence entre la musique de synthèse avec le bruit de nature. Et en assemblant tout ça, et avec les paroles, donc avec le Hörspiel qui était sa spécialité, on peut ajouter encore les paroles et enrichir la musique avec des pensées philosophiques ou quotidiennes. Après, en arrivant à Bordeaux, j'ai rencontré un monsieur, François aussi. Et donc, on a créé ensemble un collectif d'improvisation. Donc, Étienne Rolland, avec les instruments avant, Pascal Lefebvre, qui nous a accueillis avec sa structure via la roue, Eric Baron, guitare-basse, et François Rosset, piano. Et là, on a inventé une nouvelle façon de travailler ensemble. C'est que pour répéter à 5, c'était presque impossible, parce qu'on avait les emplois de temps extrêmement chargés de chacun. Et donc, on a, à 5, on a créé 5 duos, 3 trios, 2 quatuors et une quintette. Donc, ça veut dire que chaque semaine, une des formations, ils pouvaient répéter, jouer au concert. Et donc, quand on a joué 5, il y avait tous ces répertoires. Donc, on a vraiment renouvelé quelque chose par rapport de comment créer un répertoire en improvisation par une méthode de travail originale. Et après, donc, la rencontre, malheureusement très tardive, avec Bart Phillips, qui est contrebassiste américain qui vit en France depuis les années 70, qui a lui-même une anthologie de musique improvisée et de jazz. Donc c'est très difficile de citer les gens avec qui il n'a pas joué. Et donc il y a quelques phrases intéressantes lors d'une discussion que j'aimerais bien diffuser.
C'est beaucoup à voir avec l'urgence de faire, dans le sens de musicien classique, musicien de jazz, musicien de variété, à une certaine mesure, comme ça, demande un énorme apprentissage pour maîtriser toute l'histoire de ces musiques, comme ça, et techniquement, et intellectuellement, et émotionnellement, et socialement, etc., pour pouvoir être un exécutant de ces musiques professionnelles. Et avec l'improvisation, il n'y a pas toute cette préparation. C'est de faire la musique, le nécessaire de la musique, si on peut le définir, si on prend le temps de le définir, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, sans préparation. Donc, on peut le voir comme une façon de vivre aussi, parce qu'il y a des implications pertinentes dans des procédés pareils, comme ça. Est-ce qu'on se prépare pour vivre ou est-ce qu'on vit?
Donc, voilà, je pense que c'est l'essentiel à dire, c'est que c'est comment fabriquer une musique à écouter dans l'instant. Et donc là, j'aimerais bien montrer quelques exemples. Donc ça, c'est juste par rapport de ma conception du temps. C'est à la fois, c'est le mari que j'adhère complètement tout ce qui était dit avant, ma pratique, il s'éloigne beaucoup. C'est-à-dire que comment fabriquer les musiques qu'on ne peut pas segmenter du tout. Donc ça serait le premier exemple que je vais montrer. Donc ça c'est avec un groupe qui s'appelle Luxnox. Donc il y a un mélange des instruments acoustiques. Donc il y a Isabelle Silla qui joue le clarinette basse et le saxophone. Chris Martineau qui joue alto et qui chante. Roland Ossard qui joue sur les instruments qui s'appellent Mélisson, qui est un synthétiseur modulaire. Et moi, je suis au fond avec mes instruments. Donc, le contraire, donc ça c'est un groupe que malheureusement aujourd'hui il n'y a pas le temps pour parler, mais en tout cas c'est l'origine d'un autre groupe qui s'appelle ONE, Orchestre National Électroacoustique. Donc là ce qui est l'originalité, c'est chaque musicien il a inventé son instrument. Deuxième originalité, c'est que pratiquement tout le monde, sauf le deuxième Pierre Coupli, on joue avec les instruments sensibles à la toucher. C'est que ça, c'est quelque chose qui est assez spécifique de cette boue. Pourquoi le toucher? Pourquoi les pressions? Parce que ça, c'est quelque chose qui est le plus près entre l'intention et la réalisation. C'est que c'est à la fois les pressions de doigts. Donc le bout de doigt, c'est à la fois émetteur et récepteur. Donc le circuit de réflexion, c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus rapide. Donc chacun y fonctionne un peu comme un orchestre tout seul. Donc la question, ça posait comment on joue ensemble. Et donc on a pris le contre-pied complet du groupe précédent, c'est qu'on a dit il faut organiser verticalement. Donc il faut rendre la vie dans la segmentation. Donc on a créé un logiciel qui s'appelle John. John pour John Cage. Ça c'est juste rendre hommage à son personnage. Donc ce logiciel, on donne la durée de pièces complètes, donc 40 minutes ou 50 minutes. Automatiquement, on définit le segment plus court et le segment plus long qu'on veut faire. Donc on arrive dans la temporalité de Frédéric, donc autour de 20 secondes à 3 minutes. Donc on a les extrêmes autour de ça, quelque chose qu'on peut jouer ensemble. Et le logiciel, il calcule le nombre de segments. Il y a une timeline qui défile, donc on voit exactement le nouveau segment. Chaque segment, il est étiqueté, donc il y a déterminé avec un mot-clé, avec qu'on appelle karma, en disant que c'est staccato, le mode de jeu, ou ça peut être géologique, donc les métaphores, ou bien les expressions musicales. Et à partir de ça, on construit un morceau, qui est un système qui est extrêmement intéressant pour les répétitions, qui est pour le concert, on utilise, mais cela, il y a beaucoup plus de limites. Donc, ce qui est intéressant, ça c'est vraiment la volonté d'organiser les verticalités dans le contexte improvisation libre, qui est en général extrêmement compliqué. ça c'est une expérience qui était assez nouveau pour moi. C'est des remix de mes pièces par quelqu'un que je connaissais pas très bien, donc c'est Laszlo Ortobágyi qui fait de world music fictive, donc il invente un peuple et il fait la musique savante, la musique populaire de cette peuple. Et il a une discographie très impressionnante. Donc lui, il a procuré à peu près 30 ans de musique que j'ai faite. Et à partir de ça, il a fait une composition qui... chaque élément, c'est moi. Mais dans ce contexte, je n'ai pas pensé utiliser. Donc c'est vraiment c'est quelque chose aussi de... L'intérêt de ce type de recherche que Frédéric fait, c'est comment inventer des possibilités qui sont dans les matières, mais qui ne sont pas exploitées.